gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquets, do you feel good? Comment ça va? Bien!
Bonsoir à vous qui écoutez le 102.2 de la bande FM ou sur radiocanu.org. Vous êtes bien à l'écoute donc de Radio Canu et à partir de 22h, c'est l'heure de la causerie. Ce soir, petite équipe, c'est Fab dans les studios.
Bonsoir et Jean-Yves à la technique.
C'est tout à fait ça. Bonsoir, petite équipe, petite émission, mais en tout cas, on est là. Alors, si vous voulez nous joindre, pardon, je... mes petits réglages. Si vous voulez nous joindre, pardon, c'est toujours à lacauseriecanu@gmail.com. Si vous souhaitez écouter évidemment tous les formidables podcasts de ces quelques 400 émissions, eh bien c'est sur le blog de l'émission, c'est à blogs avec un S, blogs.radiocanu.org/lacauserie ou sur votre, dans votre petit moteur de recherche, vous tapez la causerie Radio Canu et normalement vous devriez tomber sur nous. Et c'est pareil pour ce qui se passe sur des réseaux sociaux commerciaux ou pas d'ailleurs aussi, type Mastodonte ou autre, vous pouvez, je crois, retrouver aussi la causerie de Radio Canu. Je crois que j'ai rien oublié. Non, je
crois que t'as parlé des podcasts, tout ça, donc voilà.
C'est tout bon. Et ben voilà, et ben c'est Fab qui va développer son sujet. Et puis ben voilà.
Ben voilà.
Ah ouais.
Ok. Alors oui, ce soir j'avais envie de vous parler un petit peu de quelque chose qui revient dans l'actualité régulièrement. Alors ça va paraître pour certains pas forcément grave, et puis quand on y réfléchit, bah en fait c'est plutôt un sujet qui peut être quand même à étudier et quand même à pas apprendre non plus à ne pas prendre, pardon, il faut que j'apprenne à parler, à ne pas prendre non plus à la légère. Donc ce sujet, bah, c'est celui des raids numériques et des notations sur Internet. Alors il y a plusieurs études qui viennent de sortir et elles démontrent en fait que nous sommes de plus en plus en réalité influencés par les notes données sur Internet un peu pour tout. Voilà, mais un peu partout. Que ce soit d'ailleurs donc pour le cinéma, les restos, les concerts, la musique ou les musiques. Mais, et c'est parfois un peu plus grave, pour notre rapport aussi à l'actualité ou aux faits. On a tendance, et c'est un biais très humain, de se dire, bon, s'il y a plein de bonnes étoiles, c'est que ça doit être vrai. Et c'est un peu le truc. Ou s'il y a plein de mauvaises étoiles, c'est que ça doit être mauvais. Ou note sur 10 ou note sur 20. Voilà. Vu que les algorithmes nous orientent en plus ce que nous voyons dès que nous utilisons en fait Internet via des choses privées, c'est-à-dire plateformes privées de réseaux sociaux ou Google ou Apple, ou enfin tout ce qui utilise des algorithmes, eh ben les algorithmes nous orientent vers ce que nous voyons en fonction de ce que nous avons noté positivement ou en fonction aussi de ce que nous avons lu parce que ça correspond à ce qui nous parle. Ou à une note qui nous parle, en fait. Pour l'actualité, il y a une nuance à apporter, hein, et c'est apporté dans les deux études que j'ai lues, sur le fait que c'est pas le seul critère, et en fait, vu que nos convictions et visions de la vie viennent en fait corriger ce qu'on lit, c'est assez efficace, en réalité, cette correction versus les notations. C'est-à-dire que dans une étude, ils ont montré des articles et ils ont mis par exemple 3000 personnes sur 500, sur 5000 aimaient cet article, ce qui fait une note assez élevée en fait globalement. Et en réalité, les gens avaient tendance à quand même à se dire bon, ok, l'article il est bien, mais je suis pas d'accord avec. Vous voyez par exemple. Et si vous montiez le critère et que vous montiez à 5000 quasiment sur 5000, 4995, en fait c'était un petit peu plus long, mais les personnes revenaient aussi sur leur jugement en disant non mais en fait je suis pas d'accord avec ce qui est écrit, parce que la politique ou le politique, la vision de la vie, ça reste pas lié qu'à des notations. Mais pour ce qui est de la culture, paradoxalement, c'est moins vrai. Habitué sans doute qu'on a d'avoir des avis éclairés entre guillemets par la presse traditionnelle, nous avons en fait donc le même réflexe avec les avis des personnes qui ont vu ou lu quelque chose. Sauf que c'est oublié que cela ne repose pas du tout sur les mêmes mécanismes en fait. Alors on va revenir un peu dessus, comment sont construits du coup les avis sur Internet. On en a déjà parlé dans la causerie, mais je vais faire un rappel rapide. Un avis sur Internet, la fameuse étoile ou note, sont en fait des agrégats d'avis sans vérification dans la plupart des cas. Une sorte de moyenne, en gros. Et encore une fois, il n'y a pas de vérification de ces avis. Donc on ne vérifie pas si ce qui rend un avis est forcément un humain. Déjà, et on ne vérifie pas si la personne qui rend un avis a vraiment vu, par exemple, ou entendu ce qu'il note. C'est là que c'est important. Un journaliste qui écrit quelque chose, il vous dit en fait qui il est et d'où il parle. Donc vous avez le nom du journaliste et vous savez d'où il vous parle. Vous connaissez souvent l'orientation qu'il a et pour qui il travaille. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, on sait que un avis négatif sur un film sur les banlieues émis par CNews, on n'est pas étonné. On se dit oui, ça se tient, voilà. Et de la même façon, un film légèrement surencensé sur le même sujet par d'autres magazines ou d'autres journaux, on n'est pas étonné non plus, parce qu'on sait que derrière il y a une vision aussi politique et une volonté de pousser ou d'empêcher un film. Donc on peut faire en gros une moyenne de ces avis journalistiques parce que on connaît les sources, voilà. Et c'est ce qui fait en fait la différence avec la moyenne que je décrivais au-dessus. Et c'est là qu'il faut voir qu'un avis journalistique, ça permet en fait un pas de recul. Parce qu'en fait, on prend ce qu'on lit, on prend le journaliste qui est là, et on se dit, lui, il est plutôt de droite, par exemple. Donc on sait qu'il va pas forcément aimer un tel film, mais on peut quand même prendre son avis sur la façon dont c'est filmé, par exemple. Vous voyez en fait, le problème, c'est que dans l'agrégat de notes dont je parlais avant, qui n'est pas fait par les journalistes, en fait c'est pas le cas. Vous savez pas qui est Toto 75 par exemple, vous voyez. Donc en fait certains ont compris comment orienter les choses à leur sauce pour orienter les choix en mettant en fait en place ce qu'on appelle un review bombing, autrement dit en fait des raids numériques organisés pour orienter ces fameuses notes. Alors ces raids, ils sont organisés, mais ils sont aussi paranoïaques et haineux. Pas faire se mentir, ça peut paraître assez dingue, on peut se dire que ces gens ont finalement vraiment du temps à perdre, mais en fait c'est une façon d'imposer leur idéologie. Ils sont persuadés que le wokisme, je mets des guillemets à ce mot, existe, qu'il dirige le monde, comme les juifs à une époque, pour expliquer un parallèle quand même qu'on peut faire aujourd'hui, je pense. Quand on entend les gens parler du wokisme, on a l'impression qu'ils parlent des juifs dans les années 30, vous voyez, c'est un peu, voilà. Et que tout film, série, chanteur, opéra, exposition, qui mettrait en avant autre chose que des hétéros et des blancs, sont des outils pour tuer leur race pure et supérieure. Voilà. Je parais caricaturé comme ça, mais je vous invite vraiment à aller lire leurs commentaires haineux et leurs notations pour voir que oui, on est à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas chez des gens qui aiment juste pas une œuvre. Et donc, en fait, ils ont monté des forums et autres Telegram, WhatsApp pour se coordonner et diffuser leurs idées nauséabondes. Et on en avait déjà parlé quand on avait abordé les incels. En fait, c'est masculiniste haineux et le phénomène en fait n'a pas diminué, loin de là. Alors, je fais une petite parenthèse que j'avais pas écrit au départ, mais qui m'est revenu en relisant mon sujet. Il faut pas oublier en fait qu'ils surfent aussi, et je le dis, sur les limites de la loi. C'est-à-dire qu'ils ont aussi étudié, fait très attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils écrivent, pour toujours rester dans les limites de la loi numérique ou dans les limites de ce que le réseau social accepte. Ils n'ont pas envie de se faire virer des réseaux sociaux, par exemple. C'est devenu un outil politique pour eux. Donc voilà. Et la méthodologie, elle est assez connue maintenant. Donc en fait, une œuvre va sortir, que ce soit cinéma, musique ou ce que vous voulez. Ils laissent la notation exister, c'est-à-dire qu'ils laissent quelques jours, quelques heures, En fait, le but, c'est que leur action ne se voit pas. Et ils lancent, généralement la nuit, hein, parce que ce sont des oiseaux nocturnes, une attaque en règle. Alors qu'ils aient vu ou non l'œuvre, hein, et c'est souvent non, pour être très clair, ils vont aller noter négativement pour faire baisser la note globale. Et ils ont compris qu'en fait, nous étions très influencés par ces notes, parce que eux, ils ont pris ça en compte dans leur façon d'agir. Et ils se disent que si la note baisse, l'audience, du coup, baissera de la même façon, et donc l'œuvre finira par ne pas marcher. Et cela semble basique, et pourtant, c'est la preuve de leur part d'une maîtrise et finalement d'une connaissance assez fine des réseaux sociaux et de la façon dont, on peut, dont ces haineux peuvent influencer. Voilà. Un exemple hein, qui est récent, le troisième épisode de la série The Last of Us, je ne l'ai pas vu, je vais le dire, est sorti. Donc a priori, je dis a priori parce que je n'ai pas joué non plus au jeu, comme dans le jeu en fait qu'il adapte, il met en scène un couple non hétérosexuel, un couple gay en l'occurrence. Sur les deux premiers jours, sa note était très bonne sur des sites de notation, notamment le plus connu qui est IMDb. Et en une nuit, en fait, sa note a chuté fortement. Parce qu'en fait, des milliers de votes sont arrivés en même temps pour lui mettre la note la plus basse. En France, c'est le film Tirailleurs qui a fait les frais de cette idéologie, où en fait, pendant deux jours, il a eu des notes à peu près logiques, et d'un seul coup, il s'est effondré après que des centaines, voire des milliers, voire des centaines de milliers de notations négatives arrivent. Et si vous voulez le savoir, j'ai peut-être pas envie de le savoir, mais je vais vous le dire quand même, selon deux enquêtes journalistiques, ces groupes vont jusqu'à utiliser les fameuses fermes à clics. Vous savez, c'est les endroits où on peut acheter des clics. C'est-à-dire qu'en fait, ils paient des sociétés tierces pour démultiplier les notes négatives et faire ainsi baisser la visibilité des œuvres et des artistes qu'ils ciblent. Alors, ça peut paraître, je le redis, hein, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui nous disent « oui, mais c'est pas grave, machin ». Il faut sortir de l'idée que tout le monde est indépendant dans sa tête quand il fait quelque chose. Et même vous, vous ne l'êtes pas en réalité. Vous lisez un magazine et il va avoir tendance à vous influencer vers quelque chose parce que vous lisez un magazine sur la musique, sur le cinéma ou quelque chose comme ça. Ah oui, je l'aime bien cet auteur-là. Et donc, ah puis j'aime bien ce critique-là. Il dit que c'est bien, donc je vais aller le voir. Donc on voit bien qu'on n'est pas neutre. Ça n'existe pas la neutralité. Personne vit dans une cloche. Donc voilà. Donc c'est important pour moi. C'était important d'en parler ce soir parce que c'est pas des faits anodins et surtout c'est de plus en plus fréquent ces derniers mois. C'est-à-dire que, bah, on peut donner deux trois exemples quand même qu'on a en, que j'ai aussi en tête. Hein. Il y a Sam Smith qui vient de sortir un album qui est descendu parce que jugé trop gay. Trop gros, trop tout, voilà. Gros, c'est la personne, hein. C'est lui qui est voilà. De la même façon, il suffit que une chanteuse prenne position, par exemple, pour l'avortement aux États-Unis, comme ça a été le cas. Mince, j'ai perdu son nom, donc ça va être un peu embêtant. Ah mince, de Dua Lipa et disent bah l'avortement c'est très important pour qu'elle ait un raid sur son album alors que je pense qu'ils n'ont jamais écouté Dua Lipa. Bah, en fait, on voit que c'est devenu vraiment un outil politique. À part entière. Donc, c'est un impact important et en fait, il est souvent sous-estimé par les milieux militants en général et aussi par les gens en général, tout simplement. Une des premières séries, hein, d'ailleurs, qui a eu le droit à un tel traitement, c'est la série Sense8. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, j'en avais parlé dans la causerie, vous tapez Sense8, vous verrez. C'est une série qui a été produite par Netflix et elle a été annulée par suite de retours de visionnage négatifs. Alors, on va être très clair, hein, Netflix, ils ne font pas de sondage. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont regarder en fait les notes qu'il y a sur les sites de notation et regardent les pouces levés ou les pouces baissés qu'il y a sur la plateforme elle-même. Et Netflix le dit, ils l'ont avoué à demi-mot, il y a un problème sur leur système de notation parce que même si vous ne regardez pas la série, vous pouvez mettre un pouce baissé. C'est-à-dire que c'est alors que normalement, s'ils avaient été corrects, ils auraient mis un truc qui permet de noter une série qu'au bout de deux ou trois épisodes, par exemple. Voilà. Mais chez eux, en fait, vous ouvrez la série, paf, vous allez dire, oh, pas pour moi, c'est nul. Et en fait, ben aujourd'hui, c'est prouvé que ben Sense8 a été victime d'un de ces fameux raids, un des premiers qui a été mis en place. Il a été mené par l'alt-right américaine et en particulier par le réseau de Steve Bannon. Et tout ça, il y a des journalistes, notamment du Washington Post, qui l'ont démontré et qui ont montré que c'était volontaire. Alors Netflix, ils ont pas osé l'avouer, hein, vu que ça remet quand même en cause leur capacité à suivre les notations et l'influence de celle-ci. Mais on peut dire que c'est pas anodin, parce que cette série, c'est une des premières séries qui mettait autant en place de personnages diversifiés dans le monde entier, de sexualités extrêmement diverses, de genres extrêmement diverses. C'était volontaire, et l'idée de cette série était de montrer un monde en changement. Et donc, bah, voilà, vous comprenez bien que ça n'a pas plu à tous ces gens qui n'aiment pas le changement. Quand on sait par exemple que les moyens données pour faire des films ou des disques reposent aujourd'hui sur la vision réductrice que peut donner la notation dite du public. On voit que le but de ces fanatiques est de tuer toutes les créations qui ne leur plaisent pas. Et ça commence à marcher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des films, des séries, des choses comme ça qui ne sont plus financées parce qu'on dit « ouais, mais on n'a pas des bons retours publics ». Sachant que le retour, encore une fois, c'est les sites d'agrégats de notation. Donc vous voyez, ça se mord la queue, quoi.
Bah ouais, en plus, ça leur permet de ne pas passer pour des fascistes censeurs.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que je disais qu'ils restent dans la limite. Ils savent exactement ce qu'ils font. C'est très dur de prouver que c'est un raid numérique, parce que c'est aussi ça l'idée. Alors, avant, ils étaient moins doués, donc ils le faisaient dès la sortie. Et donc, bon, ça se voyait un peu. C'est-à-dire que d'un coup, on disait, bon, là, OK, on voit bien qu'il y a 1000 profils qui sont créés. Mais maintenant, ils ont compris comment ça marchait. Donc, ils laissent quelques jours. Des fois, ils étalent aussi leurs avis négatifs numériques. Alors, il y a des sites hein, je vais en parler tout de suite, qui ont essayé des choses, mais ça ne fonctionne pas. Alors, parce qu'ils ont un rôle, hein, quand même, les sites d'agrégeurs de notation. Et ben, en fait, c'est les sites qui pratiquent le vote par clic. Ils ont affirmé mettre en place des moyens d'éviter cela. Bon. Sauf que dans les faits, c'est faux. On le voit, hein, si la série The Last of Us a eu un raid numérique aussi violent en une nuit, on voit bien que ça marche pas, le système qui empêche pas. Voilà. Donc il suffit de voir en fait finalement le nombre de films, de disques ou autres qui subissent des baisses subites d'un seul coup et inexplicables et qui continuent à arriver pour comprendre qu'en fait, comme toujours, ils en font le minimum, hein, c'est comme à chaque fois. Et en même temps, leur but à eux, c'est de vendre de la pub et pas de faire en sorte de donner un avis éclairé. Bien souvent. Oui, la plupart de ces sites d'agrégats, c'est des vendeurs de pubs.
Et pas d'être des défenseurs non plus d'une sorte de démocratie, quoi.
Ah non, non, du tout, hein, c'est privé, hein, faut pas oublier que tous ces sites sont privés. Ils ont pas une vocation démocratique forte.
Hein, oui, mais c'est toujours pareil, c'est attendre du capitalisme qu'il soit démocratique. Mmh. Sauf que le capitalisme s'arroge bien des états autoritaires, etc. Donc,
ouais, par contre, on pourrait s'attendre à ce qu'ils aient envie d'être quand même un peu, je sais pas comment dire, représentatifs réellement des gens qui utilisent leur site. Et finalement, non. Donc
c'est parce que les fascistes sont de plus en plus forts et que donc ils se disent tiens, faut peut-être rester du bon côté.
Ouais, je sais pas. Je suis pas sûr qu'ils soient plus forts, je pense qu'ils sont plus organisés. Mais ça, c'est un avis sur Internet en tout cas. Okay. Dans la vie, c'est autre chose. Mais voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que ils ont les moyens de savoir. Parce que par exemple, il y a des gens qui sont très doués dans ce qu'on appelle les flux informatiques qui leur ont fait remarquer qu'il y avait des moyens simples de savoir. Parce que quand d'un seul coup, un flux va dans un seul sens, c'est pas possible. Parce que quand vous ouvrez quelque chose sur Internet, c'est impossible par exemple que 99% des gens qui vont cliquer à un moment donné détestent un film, déteste une série. C'est très varié, en fait, en réalité. Ils disent, ça, vous devriez le repérer. Alors maintenant, ils le repèrent parce qu'ils publient, ils disent, on a remarqué que 28% des avis qui ont été émis en tout ont été émis sur une nuit, et voilà, sauf qu'ils ne corrigent pas la note. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, ils disent ça, ils disent, ouais, c'est pas bien. Hein. Mais après, ils disent, voilà, comme on ne veut pas se rentrer dans un débat, et je pense que là, tu as raison, c'est aussi une façon de ne pas perdre aussi l'audience des fachos.
C'est une part de marché.
Ouais, hein. C'est une part de marché, ouais. Donc, en fait, ils font des publications, publications qui vont se perdre. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez revenir sur la page pour voir quelqu'un qui aurait pas vu un film ou une série ou entendu un disque, qui va revenir peut-être des mois après, il va voir la note qui reste. Il va pas voir la publication qui a été faite sur le Twitter pour vérifier que la note, elle correspond bien. Donc, en fait, ça a un impact au final. La finalité est atteinte. J'ai du mal ce soir. Donc voilà. Donc l'idée, c'est aussi que il faut du coup se méfier, se faire un avis aussi, et aussi finalement jouer notre rôle à nous de promouvoir ce qu'on aime. C'est ça le truc. Et c'est là que on peut dire qu'on a vraiment un rôle à jouer collectivement. D'abord, déjà en allant voir, en écoutant et en mangeant ce qu'on a envie. Et en arrêtant un petit peu de se dire « Oh là là, ce film, il est mal noté, donc je vais pas le voir. » Parce que vous savez pas pourquoi il est mal noté. Parce que d'abord, la plupart des gens laissent pas d'avis écrit. Mmh. Donc, c'est juste une note. Donc voilà. Moi, par exemple, je peux vous dire, j'étais allé voir Benedetta, le film de Verhoeven. Comme il déplaisait énormément à une certaine partie de la société très catholique, très croyante, très ceci, il avait une note terrible. Avant qu'elle remonte, c'est-à-dire que en deux jours, il avait d'abord une très bonne note, puis il s'était effondré. Donc exactement le schéma que je vous ai décrit. Puis il est finalement remonté parce que plus vous avez de gens qui vont le voir, plus il y a de gens qui votent pour, et puis finalement ça finit par remonter. Et en fait, heureusement, c'était Verhoeven, c'est-à-dire que c'est un auteur connu, enfin réalisateur connu. un nouveau réalisateur, lui, il est détruit. Parce qu'en fait, il n'a pas la notoriété qui fait dire aux gens qui connaissent le cinéma ou qui connaissent au moins le nom, de se dire, ah bah ouais, je vais quand même aller le voir, parce que c'est quand même un Verhoeven, quoi. Oui. Donc du coup, ça peut marcher très vite. Et c'est là qu'on a notre rôle aussi de se dire, bah ce film, il m'a plu, il m'a parlé, donc je vais aller le voir. Et ça, c'est vraiment important. Pareil pour les disques. Moi, je trouve hallucinant de voir des gens qui disent « Non, mais j'ai pas écouté le dernier machin parce que t'as vu la note qu'il a. » On l'entend, hein, des fois. On se dit « Mais, bah, écoute, puis si ça peut te plaire, ça se trouve. » Parce que moi, j'aime bien des trucs, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui détestent. Mais moi, je les aime bien, parce que ça fait, moi, ça me parle. Et on s'en fout que ça parle pas à des millions de gens, si ça vous parle à vous. C'est déjà pas mal. Voilà. Et voilà, il faut tenter un maximum, donc du coup, de nous détacher de ces notations, et notamment des notations Internet. Et si on aime une œuvre, un lieu, un restaurant, un machin, il faut pas hésiter à en parler, à le promouvoir, à le partager, à inviter les gens dans le resto si vous l'aimez bien, à faire écouter la musique que vous aimez bien, même si vous vous dites « Ah, mais il va peut-être pas aimer ». Mais c'est comme ça, en fait, qu'on fait avancer des choses et qu'on transforme les choses. Et finalement, sans autre idée, que de faire connaître ce que l'on aime. Parce que c'est ça qui est important. Alors, je vais donner un exemple, parce que je l'ai en tête, et qui a été donné par Björk, qui est quand même pas n'importe qui, et qui expliquait qu'en fait, si elle avait pas eu au départ des fans de ce qu'elle faisait, qui avait fait écouter à d'autres ce qu'elle faisait, elle ne serait jamais devenue la Björk qu'on connaît. Parce que ça s'est fait à l'époque, il n'y avait pas vraiment Internet comme aujourd'hui, ça s'est fait beaucoup par une sorte de bouche à oreille qui s'est transmis comme ça, et elle disait, mais en fait, il faut qu'on revienne à ça, et je crois qu'elle a raison, en fait. C'est-à-dire qu'elle dit, bah oui, mais en fait, c'est aussi vous qui êtes prescripteur de ce que vous aimez, et je pense qu'elle a vraiment raison. Elle dit, il faut arrêter de se dire, j'ai mis un pouce sur telle ou telle plateforme de vidéo ou de musique, ça suffit. Non, en fait, il faut aussi, des fois, bah, dans une soirée, entre amis, dire, ah tiens, t'as déjà écouté ça? Oui, c'est ça. Et peut-être que on devrait, nous, une fois de plus, nous pencher, nous, les milieux militants, les milieux progressistes, sur notre approche des internets, en fait, parce que des réseaux, pour mieux les comprendre et pour mieux en déjouer les pièges. Et qui sait, un jour, on va peut-être arriver à les rendre plus fiables, parce que c'est aussi notre rôle à nous d'être présents. Parce que là aussi, il y a un paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, l'extrême droite, les masculinistes, les haineux, ils y tiennent une place démesurée par rapport à ce qu'ils sont dans la société, mais parce qu'eux, ils se sont emparés de cet outil-là. Et en fait, c'est aussi parce qu'on leur a laissé beaucoup de terrain qu'ils ont pu proliférer. Voilà. Et c'est là qu'en fait, on a peut-être un rôle, des fois, de revenir mettre un petit peu de conviction dans tout ça.
Bah, les fâcheux sont peut-être moins attachés, je mets un peut-être, à une sorte d'éthique, en fait. C'est-à-dire que dans les milieux militants, alors anarchistes ou autres, on va beaucoup se masturber sur ouais, mais les réseaux sociaux, c'est un truc privé, capitaliste. Oui,
oui, oui, le cinéma aussi.
Oui, hein, oui, évidemment, en fait. Mais tout, en fait. Je veux dire, Radio Canut, pour diffuser, finance des entreprises capitalistes, oui, ne serait-ce que le diffuseur, etc. C'est le propre, en fait, d'une société capitaliste.
C'est dur de sortir d'une société.
Bah, oui, en fait. Ouais. Ou alors, effectivement, tu ne t'enfermes que dans un entre-soi militant. Et ce qui, à mon avis, est en fait ce qui se passe aujourd'hui, en fait, et ce qui fait que l'extrême droite saisit absolument tout ce qui passe pour se rendre visible.
Ouais, oui,
là où nous, finalement, nous, beaucoup dans les milieux militants, on s'auto-enferme, en fait, dans une pureté militante, à être que sur des lieux, etc., qui sont bons et qui ne puent pas, etc. Ben, au final, oui, en fait, ils occupent aussi, les fachos occupent aussi la place qu'on leur laisse, en fait.
Ouais.
Et ça, sur plein d'aspects, en fait. Et sur plein d'aspects,
mais,
je trouve.
Mais c'est marrant parce que moi, quand je fais ce papier, cette chronique, je l'ai fait parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était très fréquent sur notamment des séries ou des films que je pouvais aimer, ou des lieux d'ailleurs, ou des expos que j'ai vus, et je me suis dit, mais c'est quand même un peu fou, quoi, parce que ça devient quasi une sorte de systématisme qui se met en place, et effectivement, on le ressent. Alors, évidemment, hein, y a des fois où y a une sorte de, comment dire, sur certaines œuvres, tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas bon. Donc là, bon, bah, à un moment donné, c'est qu'a priori, elle va pas plaire à tout le monde. Bon, ça arrive. Mais là, il y a quand même un jeu politique derrière, et ce qui est plus gênant, c'est que faire abstraction du fait qu'aujourd'hui une grosse part du rapport à la culture en général se fait via Internet, c'est passé vraiment à côté de quelque chose. Parce que ouais, c'est cool, hein, on peut encore faire des programmes papier, tout ça. Moi, je suis pour qu'on continue, hein, y a pas de souci. Sauf qu'on sait qu'aujourd'hui, l'immense majorité des parts passe par Internet. Et je prends l'exemple parce que je l'ai en tête et que ça m'a parlé, enfin, je trouve qu'il en a plutôt bien parlé, c'est le comte de Bouderbala. Il vient de sortir son troisième spectacle. Et en fait, jusqu'à maintenant...
C'est un comique.
Ouais, c'est un comique, enfin, pardon. Ouais, c'est un spectacle. spectacle comique et tout. Moi, je le trouve plutôt drôle, personnellement. Je pense qu'il y a des gens qui détestent ce qu'il fait. Ce qu'il fait. C'est comme ça, l'humour, hein, c'est pas le truc le plus partagé de la Terre, c'est la vie. Hein. Mais par contre, il disait, il a été très étonné parce que son spectacle-là, où justement il aborde ces questions de la diversité, de choses comme ça, ce qui se faisait déjà dans ses deux premiers spectacles, mais pas aussi frontalement que dans le troisième, c'est la première fois qu'il a des raids. C'est-à-dire qu'il le dit. Il dit, il y a des endroits où il est programmé dans une salle, et d'un seul coup, la salle, elle est défoncée parce qu'on dit, vous avez osé programmer ce mec-là. Alors que, franchement, moi, il est pas subversif, hein. Je veux dire, enfin, il est sympa, mais il sait pas, il fait de l'humour, c'est un comique, quoi. Il est pas aussi tranchant que d'autres comiques qui peuvent exister, voilà. Mais là, on sent que c'est parce que, il est d'origine maghrébine, qu'il se permet de parler de sujets qui le concernent et qui nous concernent tous, et que certains estiment qu'il n'a pas à le faire. Et ça, en fait, cette omniprésence, du coup, de ces charognards haineux sur les réseaux, fait que bah, il y a des gens, et il le disait, qui venaient le voir en disant « Ah bah, ton spectacle, il plaît moins. » Mais en fait, il l'avait pas vu, les gens non plus. C'était des fans à lui ou des choses comme ça. Mais c'est bizarre, en fait, quand on y réfléchit. Parce qu'on se dit, bah, il faut peut-être aller le voir. Et puis après, on voit. Parce qu'on peut aussi être déçu d'un spectacle. C'est comme ça.
Ah oui, ça arrive aussi. Oui.
Mais en près, il sentait, et c'est ce qu'il disait dans une interview, que certaines personnes qui le suivaient depuis des années hésitaient à venir. Parce qu'elle disait, ah bah oui, mais là, il a l'air moins bien, le spectacle, vous voyez. Alors qu'en fait, c'est peut-être juste cette espèce d'effet de masse, de meute, qui s'est mis en place. Et en fait, bah, ça va toucher principalement, et très souvent, des œuvres où il y a des personnes non blanches, où il y a des personnes non hétérosexuelles, où sont mises en scène des parts de l'histoire qui peuvent gêner certaines personnes, et on le voit avec le film Tirailleurs. Et je trouve que la plus belle réponse, et ça montre justement que le poids de l'extrême droite est démesuré sur les réseaux versus la vie, c'est que Tirailleurs, c'est le film qui marche français qui marche le mieux en début d'année, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais on voit bien qu'il y a, et en plus c'est un film en peul, hein, donc j'ai envie de dire, il n'avait rien pour marcher au départ, donc on voit qu'il plaît, et c'est bien, et c'est aussi par le bouche à oreille, et donc c'est là en fait que c'est intéressant, c'est de voir que bah, si on continue à faire, ce que je le redis, hein, du bouche à oreille à parler, on peut contrer ces abrutis. Voilà, et c'est ça qui va être important. Et c'est là qu'il faut, là où je te rejoins, faut sortir un petit peu de notre entre-soi et de nos lieux où tout va bien. Et des fois, oser dire, bah ouais, dans un repas de famille, chez des amis, ah moi j'ai adoré ce film, même s'il est en train d'être critiqué, alors que là, trois quarts des gens l'auront pas vu. C'est juste parce qu'ils ont lu que ah t'as vu, voilà. Et ben c'est ça. En fait voilà, c'est, je sais pas si ma chronique servira à quelque chose.
Cet aspect-là. En tout cas, en fait. Internet est un terrain de lutte. Et de bataille,
ouais, de bataille, ouais.
par l'extrême droite parce que finalement elle a un boulevard devant elle.
C'est ça.
Elle a peu de monde qui les contre sur ces réseaux-là, et en plus les structurations de ces réseaux fait qu'on en arrive vite dans un entre-soi quand
bien
même.
Sûr, tout à fait.
Que ce soit pour les militants, on va dire gauchistes. Alors, progressiste ou autre, ouais. Mais aussi pour les fachos, en fait.
C'est vrai pour les réseaux sociaux, c'est beaucoup moins vrai sur les agrégateurs de notes.
Non,
c'est là, en
chose.
Fait. Si vous parlez sur des sites comme Allociné, Sens Critique ou des choses comme ça, ou même les trucs de resto, hein. Ouais. En fait, là, par contre, c'est pas vrai. Mais là, c'est parce qu'on est feignant.
Oui, c'est
je
ça.
Pense qu'il y a un truc. Je suis désolé de le dire comme ça, hein. Peut-être je vais choquer des gens, mais je pense qu'en fait, des fois, on laisse passer des trucs. Il faut se souvenir qu'on doit protéger aussi certaines œuvres et certains créateurs, parce qu'ils font beaucoup. Ils sont importants, mais ils se prennent des tombereaux de merde dans la gueule et sans vraiment de soutien, des fois, de notre part, parce que oh, c'est chiant d'aller mettre un message, c'est chiant d'aller mettre... Ouais, mais sauf qu'en fait, bah, c'est aussi un moyen de leur dire t'es pas tout seul. Ça peut paraître bête, hein, ce que je dis, mais moi, je vous invite à réécouter, et ça, vraiment, je finis là-dessus, l'interview de Oshi qu'elle a donnée, je crois, sur France Inter.
Oui.
On va faire de la promo pour une radio qui est pas la nôtre, mais et en fait, moi, elle m'a énormément touché parce qu'elle le dit au début, pendant des semaines, elle s'est sentie seule. C'est-à-dire que personne n'a osé, s'est dit, bah face à ces cons-là, en fait, je vais aller moi lui la soutenir, lui dire non, ou même envoyer chier ces mecs, parce que c'est que des mecs quasiment, et leur dire mais arrêtez vos, vous voyez ce que j'ai, et c'est pas la peine de devenir forcément insultant, mais juste montrer, leur dire mais t'as rien à foutre là, pars-toi, tout, voilà. Et je me dis bah ouais, c'est peut-être ça qu'on oublie, c'est que bah ce qu'on laisserait peut-être pas faire dans la rue, on le laisse faire finalement sur le numérique, et c'est peut-être ça le problème en fait.
Ouais, et encore.
Et encore.
Et ben on passe à la zik.
Ouais.
Allez, alors attends. Bam bam bam, on y va. Ah oui, c'est pas Clara la technique.
Je me revois dans le vestiaire, dans ses rangs solitaires. Avant qu'il ne me voie, qu'il ne me lasseur. Je me revois rêvant de danse.
finir en transe. Je ne saignais le parquet, tentais ma chance. J'ai grandi tout le temps comme nous rêvent pas souvent. Et mise-toi normalement, ne fais pas autrement. Laisse l'espoir aux enfants, ne perds plus trop ton temps. Et apprends la leçon, mon grand son, je ne donne pas d'argent. Alors j'ai jamais lâché, lâché pour m'y faire. Jamais je ne t'ai laissé sans rancune, laissons nous valser. Au risque de déplaire, alors j'ai souvent tenté, tenté pour le rêve. Jamais je ne te laisserai à la tienne, je le lève sans terre. Et regarde-moi faire danser. Tu peux m'insulter, même me cogner. Si ça te console, je te laisserai m'abîmer. Merde, si tu sais que l'on est tous des comédiens mis en scène. Je te sens frustré, t'envie ma fierté. Si ça te rassure, tu peux te la jouer. Merde, si tu sais qu'on essaie de se leurrer pour plaire en scène. Te souviens-tu du jour où tu me l'as dit? Je me rappelle la nuit que j'ai passée, merci. Depuis victime d'insomnie, j'implore l'oubli. Tes mots sont inscrits gravés, ma femme d'envie. Car peiner de constater, croire en ça fait flipper. Assumer ce que l'on pense, c'est parfois risqué. On ne peut jamais rien dire sans jouer l'accusé. Ils adorent te condamner, c'est jalouse au point d'envier. Alors j'ai jamais lâché, lâché pour m'y faire. Jamais je ne t'ai laissé sans rancune. Laissons-nous valser. Et regarde-moi faire.
Sans frustrer, tu as envie ma fierté. C'était Loïc Notet avec Danser, c'est son nouveau titre. Alors, c'est issu de son nouvel album un peu concept où il revient un petit peu sur comment dire, sur sa vie, on va dire ça comme ça, mais surtout sur les blessures et les violences qu'il a pu subir. Donc c'est le deuxième titre, le premier était guère plus joyeux, même si on danse, mais voilà, enfin joyeux dans le sens où ce qu'il raconte, même si à chaque fois Loïc Notet précise et le démontre que ça va maintenant. Voilà, mais comme il l'a dit, c'est un album pour ceux qui sont dans le bas de la pente et qui ont envie d'entendre que, bah, même si des fois ça fait mal, bah, on arrive à se relever. Et Danser, bah, c'est, pour moi, c'est un super beau titre. Voilà.
Ok, et ben voilà, on avait dit une petite, petite émission, donc on va se quitter avec quelques rendez-vous, évidemment, militants pour la semaine à venir. Alors toi, t'as un truc à annoncer aussi ?
C'est le 7, donc vas-y, fais les manifs
okay.
D'abord.
Et ben alors évidemment, bah ouais, vous l'aurez compris, mardi 7 février et samedi 11 février, il y a des manifs contre cette réforme des retraites que le gouvernement veut absolument faire passer, évidemment, parce que c'est ça la démocratie.
C'est 49.3 la démocratie.
Ouais, c'est ça. Alors, mardi 7 février, hein, la manifestation est à 12h au départ de la manufacture des tabacs, métro Sans Souci. Et samedi 11 février, la manifestation est à 14h au départ des Brotteaux pour aller vers les gratte-ciels.
Oui.
Déjà, je trouve ça vachement bien de sortir un peu de l'hypercentre lyonnais pour aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs en périphérie. Alors là, on parle de périphérie très proche. Hein. Donc évidemment,
oui, parce qu'alors les gratte-ciels,
oui, c'est Villeurbanne, hein,
c'est juste Villeurbanne, puis c'est collé à Paris.
On sait que pour certains, c'est compliqué d'aller au-delà de la presqu'île. et on pense à EEL. Alors, l'intersyndicale, hein, appelle d'ici là à multiplier les actions, les initiatives, les réunions ou assemblées générales partout sur le territoire.
dans les entreprises et services, dans les lieux d'études, y compris par la grève, et soutiendra toutes les mobilisations décidées par les travailleurs et les travailleuses. Et ben voilà, donc rendez-vous mardi 7 et samedi 11 février contre la casse du système de retraite. Bon,
moi, je vais juste noter un truc, mais c'est le syndicaliste en moi qui parle. C'est quand même, ça faisait très très longtemps, je crois depuis 2012 ou 2011, qu'on n'avait pas une intersyndicale aussi large et qui appelle aussi largement à dire on soutiendra toute initiative initiée par les salariés. Donc c'est bien, faut se saisir de ça, parce que ça veut vraiment dire que bah, c'est vous qui faites le mouvement, c'est pas les centrales.
C'est ça.
Voilà.
Et il y a aussi, enfin, j'ai vu qu'aujourd'hui, le CG, enfin, dans différents lieux, il y avait aussi d'appels à créer des pancartes, des visuels, à les écrire sur les murs. Donc on le dit sans le dire, hein, mais évidemment, utilisez vos plus belles bombes, vos plus beaux feutres et colorer les murs tristes des cités.
Mais les murs, c'est fait pour être expressif.
Bah ouais, c'est ça.
Parce qu'on fait des Karim Benzema, c'est ça dont je
Ouais, c'est exactement ça.
Immense pour rappeler aux
pauvres. Sur le bord du périph.
Ouais, pour rappeler aux pauvres qui habitent là.
Qui a un espoir d'être millionnaire.
De plus être pauvre un jour. Mais on change pas leur immeuble. On a juste mis une grande affiche sur l'immeuble. C'est cool.
Ah bah ouais,
non, je veux dire, c'est honteux. Pardon. Mais voilà, mais du coup, oui, ça peut servir à autre chose, les murs.
Oui, c'est ça.
Alors, sinon, le 7, du coup, bah, alors, vous serez à Gratte-Ciel. Alors, bon, bah, s'il n'y a pas de métro, il faudra revenir à pied.
Ouais.
C'est pas grave, ou à vélo, pas comme vous voulez. Mais en tout cas, vous irez jusqu'à la Plume Noire hein, pour y arriver à 18h si possible, parce que la Plume Noire diffuse le film La Sociale. Alors c'est l'UCL, hein, l'Union Communiste Libertaire, qui diffuse le film. Alors, La Sociale, c'est un documentaire de Gilles Perret qui retrace l'histoire de la sécurité sociale française. Donc je vais me permettre une blague, c'est quand même cool de voir que même là, on peut passer un film très très pro-coco dans un milieu très très anard. Ferme la parenthèse. Voilà. Mais en tout cas, bah, peut-être que c'est bien, ça fait la convergence des luttes. Et du coup, la Plume Noire, c'est 8 rue Diderot, dans le premier, et c'est à partir de 18h. Oui, alors vous aurez compris que j'ai pas vraiment aimé La Sociale, mais c'est un autre problème.
Voilà. Oui, en plus, en lien avec le fait que par les Mutins de Pangée, et les Mutins de Pangée
mettent gratos
dispo, voilà. Les droits de diffusion pour que vous puissiez diffuser où vous voulez.
Mais les Mutins de Pangée, c'est pas des anas. Bon, et donc du coup, tout ça pour dire que, même si j'aime bien certains de leurs films, donc tout ça pour dire que c'est aussi reversé entièrement, tout le prix libre qui sera demandé est reversé entièrement à la caisse de grève féministe. Voilà, donc du coup, c'est plutôt cool. Et j'avais un deuxième truc, pardon, il faut que je le retrouve. C'est le même jour, alors je suis désolé, hein, pardon, mais il faudra choisir, mais c'est une rencontre et discussion qui s'appelle Sexe et Liberté et qui est faite à l'Amicale du Futur à 19h30. Alors peut-être remarquez, vous pouvez peut-être faire les deux. Voilà, ben, faut aller vite parce que l'Amicale du Futur, c'est pas vraiment bon endroit. Donc c'est l'Amicale du Futur reçoit Fanny Quément, qui est la traductrice de Sexe et Liberté d'Hélène Willis, hein, qui est parue il y a pas très longtemps aux éditions Audimat, pour une discussion autour, entre autres, hein, du féminisme pro-sexe, des sex wars et de l'expérience militante de la traduction féministe. Voilà, donc ça peut être très intéressant, surtout que bah ça va aller très très largement, hein, parce que ça va effectivement des pro-sexe en passant par le punk, en passant par le rock, en passant par tout ça. Donc voilà, donc du coup bah c'est un petit peu tous les mouvements qu'on a connus depuis les années 60. Donc c'est plutôt sympa, et donc ça ce sera donc le 7 à 18h30, début de l'événement à 19h30, entrée libre. Il y a de la distro sur place et sûrement à manger aussi. Voilà. Et donc c'est à l'Amicale, 31 rue Sébastien Griff, dans le 7e. Voilà. C'était les petites annonces militantes. Et je me permets d'ajouter deux choses. La première, c'est que la répression, j'en parlerai sûrement la semaine prochaine, la répression au Soudan repart de plus belle parce qu'il y a une sorte d'arrangement entre une faction qui était contre le gouvernement et le gouvernement et qui sont en train de s'allier contre ceux qui veulent changer la donne. Donc, c'est-à-dire les révolutionnaires. Donc voilà, tenez-vous informés. Si vous pouvez aider autour de vous, n'hésitez pas. Et la deuxième chose, c'est de dire quelque chose. Vous avez peut-être l'impression que l'Iran s'est terminé. En fait, c'est pas terminé. C'est juste que la répression a fait changer les modes d'action. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté de faire des grosses manifs parce que grosse manif égale 150 personnes arrêtées à chaque fois. Donc maintenant, on est plutôt sur des actions ciblées et qui sont peut-être moins visibles, mais qui existent toujours. Et là, j'invite tout le monde à aller sur des réseaux alternatifs comme Mastodonte ou même d'ailleurs sur Facebook si vous pouvez trouver certains qui relaient et aller vous informer parce qu'il y a des vidéos de ce qui se passe en Iran. Et non. la révolution iranienne n'est pas terminée, contrairement à ce qu'on essaye de faire croire, que le régime essaye de faire croire. C'est juste que elle prend une respiration, parce que voilà, on en est à plus de 55 000 personnes arrêtées, la plupart torturées. Donc forcément, ça, on fait plus les choses de la même façon. C'est normal.
Non, c'est-à-dire que quand t'as des milliers de gens arrêtés, des centaines de gens qui sont en tôle, etc., qui ont des procès complètement
aberrants,
etc. Juste une pensée, parce que c'est un article que j'ai vu passer. Il y a un couple quand même de jeunes amoureux qui s'étaient amusés à danser, vous imaginez, avec une femme sans voile et juste amoureusement danser, qui ont été donc condamnés à 10 ans de prison parce que c'était l'impureté, etc.
Ouais, ils sont en bisbille avec Dieu aussi.
Ouais, c'est ça, Dieu aussi n'a pas supporté. Il ne s'agit pas de foutre une balle dans la tête des mollas pour être enfermés et être torturés, quoi. Je veux dire, une danse suffit.
Oui, tout à fait.
C'est aussi ça qu'il faut aussi regarder, quoi.
C'est cette répression extrêmement puissante qui a été mise en place, qui fait que la révolution a changé de forme. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle est terminée, ça veut juste dire que là, il y a quand même un choc, et qu'à un moment donné, un choc. Il ne faut pas oublier, j'ai oublié de le dire, mais on en avait parlé dans la causerie, les premières exécutions ont eu lieu, et elles ont été, pour certaines, publiques. Il y a des corps qui ont été maintenus, pendus sur des places publiques pendant 3 jours, pour bien montrer, hein, vous savez, voilà, si vous défiez le régime, voilà ce qui va vous arriver.
C'est la terreur. Hein.
C'est la terreur, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de contre-révolution mise en place par les mollahs. Et une répression de la révolution qui est extrêmement violente. Voilà, mais je voulais le dire ce soir parce que j'ai vu passer 2-3 messages où les gens disaient ça y est, c'est fini en Iran, ou même des gens qui m'ont envoyé sur mes réseaux à moi, tu parles plus de l'Iran. C'est pas que j'en parle plus, c'est que j'ai pas beaucoup d'infos, malheureusement, parce que ça a aussi eu cet effet-là. On peut savoir que oui, ça continue, et il faut continuer à les soutenir et soutenir les associations qui sont ici et qui essayent de les soutenir sur place. Voilà,
et c'est fait, c'est dit. Nous, on vous donne rendez-vous dimanche prochain, normalement, de 22h à 23h, oui. Peut-être, sur l'antenne.
Il faut espérer que ce soit 23, là, je pense que c'est un peu tôt, là. Moi, j'ai pas l'habitude de me coucher si tôt.
T'es pas obligé de te coucher. on va se quitter en musique, c'est toi qui annonce.
Oui, et c'est toi qui mets le CD.
Oui, c'est tout à fait ça.
Et donc, on va quand même dire, elle est pas là, mais c'est le choix de Clara, quand même, la musique, il faut quand même le dire. Et c'est le groupe Beast in Black. C'est pas comme si on était allé les voir samedi soir, mais c'était vachement bien. Et donc, du coup, on vous propose ce soir, et surtout Clara vous propose, d'écouter Moonlight Rendez-vous du groupe Beast in Black. Ça dure 6 minutes 30. Donc,
5:40.
À 5:40, bon, j'y étais presque. J'avais été noté 6 minutes 30. prenez soin de vous. Bonne semaine, bonne lutte. Bonne semaine. Et à la semaine prochaine.
Des bisous. Ciao.